Bonjour tout le monde, aujourd'hui on fait les choses un peu différemment. Pour ce deuxième épisode, je vais être en présentiel et en présentiel dans un sauna. En effet, aujourd'hui, je suis reçu par Jesse, que vous connaissez peut-être de la marque Oopsmark, dont on va parler un peu plus tard chez lui, et m'a invité dans le but de parler de sa prochaine aventure où il ira faire du bikepacking humanitaire en Afrique. Je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet dès maintenant parce que je vais le laisser expliquer son projet, mais sans plus tarder, allons dans le sauna.
Check. Hold on, I'm just getting your setup here.
C'est fou pareil la vue, hein?
Comme yeah.
De penser qu'on est au cœur du plateau.
Yeah, c'est fou l'été, mais tu peux être là, mais c'est calme. Au milieu de 3 millions de personnes.
Yeah. Et c'est parfait. Puis merci de me recevoir en ton sauna ce soir pour discuter de. Dans le fond, on pourrait commencer par parler de ton background. Donc avant d'être Oopsmark et tout, dans le fond, t'étais pas nécessairement dans le cyclisme, t'avais une carrière un peu plus corporative et traditionnelle.
Yeah, c'est vrai. Yeah, j'ai étudié en génie mécanique à Waterloo en Ontario and design industriel. I just like making things, but j'étais un ingénieur environnemental avant. Mm-hmm. Pour des années. C'était intéressant, but j'ai pris un break un jour parce que j'ai pas eu la chance de fabriquer des choses et j'aime créer des choses. Mm-hmm. You know, j'étais dans les meetings tout le temps et j'ai pris un an de repos, de juste le but pour l'année c'était juste de fabriquer des choses. J'ai commencé à fabriquer des choses en cuir juste pour fun et then après ça j'ai décidé je peux juste avoir une compagnie de design et lancer quelque chose online. But j'ai travaillé sur Venice Beach en Californie, and à Montréal, and des festivals de blues, jazz, choses comme ça.
Ah, c'est très cool.
C'était fun pour une année.
Puis est-ce que c'est à partir de là, dans le fond, parce que là, les gens savent peut-être pas encore, mais t'es derrière aussi Oopsmark, la compagnie qui fait des produits en lien avec le cyclisme urbain, puis le bike touring, le cyclotourisme. Puis, dans le fond, est-ce que c'est à partir de ce moment-là que t'as commencé à penser à créer des produits pour Oopsmark?
Yeah, well, j'étais en train de faire une start-up pour l'industrie de musique. C'était des wearable band merch avec des clés USB, blablabla. And j'ai lancé un produit, le support à vin pour vélo, puis ça a devenu viral. And tout de suite, j'avais une compagnie, Oopsmark. Et j'ai décidé de juste continuer à fabriquer des accessoires pour vélo parce que ça m'intéresse, c'est bon pour l'environnement. Et c'est fun. Et j'avais tous les matériaux. Déjà,
ouais.
À cause du support à vin.
C'est drôle, le support à vin, je pense que je te l'avais déjà dit, mais il y a quelques années, je travaille en agence de marketing, puis il y a quelques années, l'agence pour laquelle je travaille avait comme client Air Miles. Puis Air Miles voulait faire, justement, voulait se rapprocher des jeunes, puis être plus local, puis il avait acheté, je pense, une centaine de supports à vin.
Ah oui?
Ouais. Puis je trouvais ça drôle parce que genre moi j'étais vraiment passionné de vélo, puis à la fin je pense qu'il en restait deux ou trois là, ça s'est vraiment super bien vendu. Puis vu que j'étais fan de vélo, il m'en avait donné un, fait que sans te connaître encore, je connaissais ton produit, puis je pense que ça a été un gros succès, on pourrait dire planétaire là, parce que...
Yeah, non c'est vrai, quand je voyage ailleurs, les gens disent « Oh je connais ce produit ouais. ». C'était juste le temps où Facebook était organique, and c'était juste un sweet spot de... vélo, environnement et alcool.
Ouais. Puis c'était aussi c'était le gros boom, je pense, du cyclisme urbain. Tu sais, le premier gros boom du cyclisme urbain, un peu avant que tout le monde commence, tu sais, les compagnies commencent à s'intéresser à ça de façon.
Yeah. C'était avant ça. Ouais. So, yeah. Après ça, j'étais comme, oh, je veux faire plus de ça. J'ai engagé tous les magasins pour demander, qu'est-ce que tu as besoin d'autre dans l'industrie? Qu'est-ce que je devrais fabriquer? Et j'ai commencé à faire de plus en plus d'accessoires. Mais deuxième, c'était le support cadenas, qui tient un support cadenas U.
Ouais.
Sur le vélo, et on est rendu à des paniers, des genres de frame bags, choses comme ça. Ils sont uniques, je dirais, des inventions, un petit peu. Mais juste des choses que j'utilise moi-même pour bike touring ou juste commuter cycling dans la ville. Or coffee shop hopping.
Puis c'est toi aussi qui est derrière le comment on dit ça, bureau bag,
Le bureau bag, oui.
Ouais. Yeah, ça, c'est un genre de backpack, panier. Yeah, ça tient le laptop sur un côté. C'est super pratique, c'est chic. C'est durable. Like, j'ai voyagé en plusieurs pays avec ce produit, mais c'est aussi juste un produit pour les gens urbains
mm-hmm.
qui font du cyclisme.
Ouais, moi, je l'ai, puis ma copine en a un aussi, puis on l'adore, là. Je veux dire, c'est un produit, c'est chic, fait que tu arrives au bureau, puis t'es comme pas gêné de l'avoir, c'est un peu passe-partout, puis c'est surtout très efficace, je pense.
C'était ça, j'essaie de faire une esthétique qui est juste, c'est pas nécessairement sportif, you know, c'est durable, résistante.
Mm-hmm.
Pour la pluie and camping and everything, but tu peux aller au bureau avec.
Yeah. Puis, dans le fond, ça fait combien de temps que tu as cette compagnie-là?
Yeah, ça fait depuis 2011. So.
Ok, quand même.
12 ans.
12 ans, ouais.
Yeah. C'est... En avril, ça va être 12 ans.
C'est fou. Yeah.
C'est fou. I mean, au début, it was like Playboy magazine, like tous les magazines de design
mm-hmm.
partout dans le monde. C'était crazy. But. Yeah, c'est cool que ça a duré si longtemps. J'ai eu la chance de créer plein de choses. And ça m'a rendu plus loin dans le cyclisme. Ça m'a donné une excuse de faire des voyages de vélo dans les vignobles, you know, pour travail, of course.
Oui, mais tu as une bonne expérience en bike touring, je pense.
Yeah, à cause de mon compagnie, j'ai commencé à voyager à des vignobles,
mm-hmm.
faire des tours de... Et puis j'ai commencé à faire des tours en Argentine, en Europe. Je fais... Plus que 15 pays, des voyages de 4 mois des fois, ou 2 mois. Travailler un peu digital nomad,
mm-hmm.
faire mon marketing dans Amec. Yeah, plusieurs voyages. Et then au Québec, I mean, c'est malade au Québec. Juste pour voyager, juste pour aller à un chalet, ou juste les fins de semaine. C'est tellement bon ici pour ça.
Ouais, puis surtout avec le développement du gravel, là, je pense que tu avais commencé... C'est drôle parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, tu sais, c'était à Big Red.
Ouais.
Puis ce que tu m'avais dit, c'est que c'était comme... ça fait 10 ans que je fais ça, genre rouler en gravel, mais c'est juste que là, c'est comme la première fois que tu le faisais comme dans un côté organisé où est-ce que, dans le fond, on dormait en camping, on faisait une ride, on revenait dormir. Tu sais, c'était pas genre un voyage, c'était vraiment comme juste faire du gravel. Mais que toi, ça faisait longtemps, dans le fond, que tu parcourais de ce type de route-là.
Yeah, j'étais curieux. C'est quoi cette affaire de gravel? De quoi il parle? Parce que nous, on fait de gravel tout le temps, everywhere, mais c'est un peu différent, right? C'est des pneus beaucoup plus larges,
ouais.
C'est plus vite. I mean, aussi au Québec, il y a une grosse communauté, le Big Red. Il y a plein d'événements. Chaque fin de semaine, il y a deux événements au moins.
Ouais.
Même à Montréal, il y a deux ou trois par semaine de cyclo à la ville, c'est vraiment cool.
Ouh, c'est chaud.
Yeah, non. On est à 60 degrés Celsius. Normalement, c'est plus 80.
Ouais, je me rappelle la première fois que je suis venu, là, il faisait tellement chaud. C'est... J'avais l'impression que les verres irradiaient dans nos mains. Là, c'est comme tu sentais la chaleur juste du verre d'eau que tu avais dans ta main. Puis là, ah non, c'était hallucinant. On a parlé de ton expérience, on a parlé dans le fond de tes voyages, etc. Là, tu te prépares pour ton prochain gros voyage.
Oui.
Puis je pense, dans le fond, je sais pas si tu veux nous parler un peu plus justement de ce voyage-là, puis de peut-être de commencer par la destination puis la raison pourquoi tu vas faire ce voyage-là.
Yeah, sur le 7 mai, je pars pour Lesotho en Afrique du Sud. C'est une pays like dans l'Afrique du Sud, complètement intégré. Et je vais là parce que ma mère a créé une charité. Ça se dit, une charité?
Un organisme à but non lucratif, okay. Je pense qu'on dirait. C'est très long en français.
Organisme non lucratif. Ça fait 20 ans, puis elle prend sa retraite. So, il va avoir des événements pour célébrer ça. Et je vais aller pour supporter ce qu'elle a fait. But, obviously, je vais amener mon vélo, je vais faire des tours dans les montagnes. Là, c'est vraiment haut. Il y a beaucoup des sentiers de vélo que j'ai trouvé qui va jusqu'à like, 3000 mètres.
Mm.
C'est au niveau que ça commence à être high altitude.
Mm-hmm.
Yeah, je planifie pour ça. Je fais mon entraînement et je suis vraiment excité de faire du bikepacking là. J'achète de nouveaux gear et C'est surtout l'entraînement parce que j'ai jamais entraîné en vélo l'hiver. Je fais plus de ski. Mm-hmm. So, j'ai acheté un trainer déjà usé. C'est vraiment fun. J'apprécie beaucoup plus ce que je pensais.
Non, c'est vraiment addictif le trainer. Fait que dans le fond, si j'ai bien compris, c'est comme un peu un voyage que tu vas aussi transformer en levée de fonds. Est-ce que c'est bien ça?
Yeah. Et je vais commencer à lever des fonds pour des enfants pour graduer leur dernière année de l'école secondaire. Parce mm-hmm. qu'il y a des gens qui arrivent aux dernières années et ils n'ont pas assez d'argent pour finir. Il faut payer pour l'électricité, pour les professeurs, etc. J'ai lancé un petit campaign pour ça, puis ça fait, cinq jours quelque chose. On a déjà envoyer 7 ou 8 enfants à graduer leur dernière année à l'école. C'est vraiment cool. Il reste quelques semaines. C'est ça, j'ai pensé, pourquoi pas partager l'expérience de préparer pour un voyage de vélo, puis juste mélanger avec l'environnement où ce que je vais et essayer de les aider. Mm-hmm.
Faire une pierre deux coups. Puis, ton voyage de bikepacking, est-ce que c'est en autosuffisance? Dans le fond, est-ce que tu vas tout traîner avec toi, mettons, shelter, dans le fond, l'abri, tu sais, dans le fond, je pense que je regarde beaucoup de vidéos de bikepackers qui expliquent leur système, puis dans le fond, ils disent système abri, système cuisson, système toilette, vêtements. Toi, dans le fond, c'est pas juste toilette, vêtements, c'est vraiment tout le système, t'es en autosuffisance.
C'est ça, je vais être complètement autonome parce que je ne sais pas les terrains, il s'est vraiment pentu. Je dois être préparé pour être autosuffisant. J'amène toujours like a backup food, like un sirop d'érable, quelque chose, like mm-hmm. 500 ml de sirop d'érable pour rouler pour quelques jours en cas d'urgence. But aussi, je vais essayer de trouver des petits villages, puis prendre de l'eau et tout ça, parce que il y a de l'eau là présentement, il y a beaucoup de pluie, mais en général, c'est pas sûr qu'il va avoir accès à l'eau partout. So, il faut que je rende à des destinations avec de l'eau.
OK, puis, ouais, dans le fond, c'est beaucoup de logistique. Ça doit être ton côté ingénieur qui doit kicker in quand la logistique devient intense. Mettons qu'on commence par la nourriture, parce qu'on s'entend, de un, la nourriture est très différente de ce que tu es habitué de manger. Mm-hmm. Est-ce que tu as, mettons, des craintes ou de la préparation par rapport au type de nourriture puis à l'eau que tu vas retrouver là-bas?
Bon, j'ai fait un peu de recherche, puis ils ont un genre de beef jerky. Mm-hmm. C'est fait avec un type de, like, antelope, un petit peu. Okay. So, il y a beaucoup de ça, and, normalement, quand je voyage, comme dans les voyages comme ça, c'est pas pour aller le plus vite possible, le plus loin possible, c'est pour visiter le pays, c'est pour rencontrer les gens. Mm-hmm. So, c'est pas nécessaire que je dois rouler super vite tout le temps. Et quand tu roules comme ça, il faut que tu prennes des sucres. Mm-hmm. But, quand tu es plus à l'aise puis tu prends des pauses, tu peux manger plus de protéines, plus de viande, du fromage. Mm-hmm. So, pour moi, dans les voyages comme ça, au lieu de traîner like, un four, tu le quittes, mm-hmm. j'amène mon couteau au Opinel et je mange like picnic style.
Okay.
Ça sauve des kilogrammes de mm-hmm. épaisseur et j'aime manger comme ça. Il y a toujours de nourriture comme ça à trouver partout. Il y a souvent des fromages ou des saucissons, mm-hmm. des noix, des avocats si t'es chanceux. C'est différent que de rouler de gravel like, à des rêves où tu prends des sucres, des gourous, whatever, but je vais amener des électrolytes, c'est sûr, parce que ça va être vraiment chaud, ils m'ont quand même pas habitué.
Puis pour l'eau, parce que moi, ça serait une de mes grosses craintes après la nourriture. Les craintes, est-ce que tu amènes un système de purification, comment ça va fonctionner?
Yes, so j'ai trouvé un produit d'une compagnie qui s'appelle Water to Go. Puis c'est un water bottle, mais il y a un filtre dedans qui filtre 200 litres d'eau.
Ok.
So, je peux même prendre l'eau d'une rivière, un lac.
Ok, puis quand tu bois, ça filtre. Ok.
Yeah. So, je peux remplir mes autres bouteilles avec celui-là. So, ça va être max, j'imagine 7 à 10 jours de voyage. So, okay. Ça va être assez. 200 litres, c'est sûr que ça va être assez.
Ouais.
But c'est ça, je prépare le mieux possible, mais tu sais jamais. quand tu arrives là, tu te changes.
Ouais.
Et tu parles avec quelqu'un, puis il dit, oh, il y a ça. So, j'essaie de préparer le plus possible, d'être prêt pour toutes les possibilités.
Mm-hmm.
But avec ça, I'm covered.
En fait, c'est quasiment une philosophie où c'est beaucoup de flexibilité, puis tu go with the flow.
Yeah, and ça dépend des voyages. Like, de sept voyages et plusieurs d'autres voyages, tu arrives et tu connais quelqu'un là. Mm-hmm. So, tu peux amener des choses que tu ne peux pas nécessairement amener en voyage.
Ouais.
So, quand tu arrives là, tu peux décider, oh, je vais laisser mon mid-layer ici. Or,
mm-hmm.
Je vais garder mes imperméables, ouais. Whatever. So, pour ce voyage, je vais faire la même chose. Je vais amener certaines choses qui sont like B-list.
Ouais.
But then, au moment, après parler pour les gens pour quelques jours. Et ça, c'est important, je trouve, parce que ça fait plusieurs voyages où j'ai trop planifié, j'ai arrivé là avec un plan et ça ne marchait pas du tout.
Mm-hmm.
Par exemple, it's like 45 degrés, tu peux pas rouler, il n'y a pas d'eau,
ouais.
Or whatever. So, yeah, il faut être flexible.
Puis, dans le fond, l'autre question que je me posais par rapport à ce voyage-là, tu sais, je pense que tu pars dans quelques temps. C'est quand tu pars
exactement? Il y a quelques semaines, c'est le 7 mai, ou 7 mars.
7 mars?
Ouais.
Ok, c'est encore plus tôt que je pensais. Dans le fond, eux là-bas, c'est leur été, ou ils doivent être comme...
C'est comme fin août.
Ouais, c'est ça. Tu sais, ouais. Il fait chaud là-bas. C'est comme...
Fait chaud, yeah.
C'est ça. Puis, dans le fond, tu disais que t'avais, dans le fond, tes jambes de ski plus tes jambes que tes jambes de vélo. Tu disais que, dans le fond, t'étais peut-être pas acclimaté à la température. Comment tu fais pour te préparer pour ça?
Yeah, ça c'est le plus gros problème pour moi parce que je suis vraiment habitué au froid. J'ai une plonge froid, je cours en t-shirt l'hiver. Et d'aller dans un pays chaud, c'est difficile pour moi. So, je vais faire mon mieux. J'ai quelques stratégies. Un, c'est sur mon trainer, je mets des ampoules infrarouges,
okay.
Pour me chauffer. Et comme ça, peut-être mon corps peut s'habituer à like the water management. Parce que c'est ça, quand ton corps n'est pas habitué à garder l'eau,
ouais.
I'm just gonna sweat and lose it. So, comme ça, je peux pratiquer. Et c'est déjà plus difficile comme ça, mais je pense que c'est la bonne manière de pratiquer. Et puis il y a d'autres systèmes que j'ai utilisés, comme par exemple, tu amènes une longue chemise, puis tu mouilles, puis okay. Tu portes quand tu roules. Et quand ça évapore, ça refroidit ton corps.
Ok. Tu as un peu une logistique là-bas où tu vas porter comme des vêtements mouillés, puis dans le fond, ici, tu essaies d'entraîner ton corps.
Yeah, avec les lumières infrarouges.
Ça fait un peu comme un sauna infrarouge.
Yeah, c'est comme rouler dans un sauna.
Ouais. C'est drôle parce que, ouais, t'as raison, j'avais pas pensé à ça avant l'entrevue, là, mais t'es la personne que je connais qui résiste le mieux au froid.
Oui, c'est vrai, on a roulé le temps.
On a roulé, il faisait genre 2 degrés, t'avais un t-shirt, des arm warmers, puis là, Mané, en plein milieu de la ride, t'as dit « Ah, je pense qu'il fait froid, je vais mettre mon imperméable. » Puis là, t'as sorti un imperméable de ta poche. Puis là, j'étais juste comme « Je serais littéralement mort de froid si j'étais si yeah. Je portais juste ça. »
Yeah, c'est difficile pour moi d'aller dans les pays chauds. Au moins, j'ai like, une semaine quand j'arrive pour des festivités et tout ça. So, je peux courir, par exemple, juste entraîner un peu dehors pendant la première semaine.
Mm-hmm.
Et par exemple, je peux amener mes souliers de course. Je peux les laisser là pendant mon voyage.
Ouais. C'est plus sécuritaire que ça l'a déjà été. Tout ce qui est Afrique du Sud, Lesotho, etc. Mais est-ce que tu te prépares d'une certaine façon? Parce qu'il y a quand même... C'est pas l'endroit le plus sécuritaire sur la planète, t'sais.
Yeah, c'est vrai, j'ai reçu beaucoup de commentaires de mes amis et mes parents. J'ai déjà fait beaucoup de recherches avec les gens qui travaillent en location à Lesotho. Puis je suis déjà visité Johannesburg et je sais que c'est tellement dangereux là. Like, j'ai voyagé pas mal dans le monde, mais là c'était la première fois que je départ pour ma vie. Mais en Lesotho, c'est dans les montagnes, c'est vraiment. Il n'y a pas beaucoup de personnes et je vais être vraiment. Hors piste.
Mm-hmm.
Quand même, j'ai déjà planifié pour avoir du pepper spray.
Ok.
Parce que le seul danger vraiment, c'est des gangs d'initiation
OK.
Ils sont des gens de like 13 ans, et pour devenir un homme, t'allais dans les montagnes avec des autres hommes, et tout le monde se bat. Ils font de circumcision, des choses comme ça, puis ils font des tests d'initiation. So, ça, c'est vraiment le seul danger. But, again, je vais prendre la première semaine de parler avec des gens, comprendre l'environnement,
ouais,
les régions, s'il y en a des régions dangereuses ou pas. Mais c'est vraiment haut dans les montagnes, c'est pas près d'une ville.
Ouais. Je pense que c'est ça que tu disais, c'est un peu moins urbain que, mettons, Johannesburg.
Où, yeah.
Où il y a vraiment des problèmes liés aux gangs. Puis,
Yeah, I mean, j'amène souvent un couteau quand je voyage et je porte sur mon ceinture, juste pour montrer à du monde, like, hey, j'ai un couteau.
Ouais.
Et aussi, j'amène souvent un cadenas, juste en cas d'urgence, like, pour. Like, attacher un corde, par exemple, juste pour me défendre. Il y a d'autres questions de sécurité pour le vélo et l'équipement. So, je ne sais pas si tu as vu, j'ai lancé un nouveau produit cette année, et ça tient un AirTag sur le vélo. So, si quelqu'un vole le vélo, je peux traquer avec le AirTag. Et je vais chercher un pour Android aussi.
Okay.
Puis je vais attacher quelque part sur mon vélo. Parce que là, c'est moins iPhone, c'est plus Android, probablement. Yeah, c'est ça, et je vais dormir à côté de mon vélo tout le temps.
Ouais, c'est quasiment attaché après. Yeah. Parlant de ton vélo, ça serait ma prochaine question. T'amènes-tu ton vélo régulier? Parce que je sais que là-bas, t'sais, les standards sont un peu différents en termes de pièces de vélo. Je pense juste... c'est drôle parce que justement, quand je te dis je geek un peu trop ces temps-ci sur le bikepacking, deux Hollandais qui font le tour du monde, puis eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils ont des vélos avec des roues 26 pouces, puis ils vont jamais plus que du 9 vitesses parce que les standards d'aujourd'hui dans certains pays, ben on peut pas les retrouver. T'sais, mettons, tu casses ta chaîne 11 vitesses, t'es comme you're fucked.
T'sais? Yeah.
Puis même chose pour les roues, il y a plein de places où, par exemple, 700. Ça existe, mais c'est comme trop moderne, fait qu'ils tiennent à peu près juste du 26. Est-ce que tu amènes ton vélo régulier? Ou?
Yeah, j'amène mon... j'ai une vélo d'acier de touring, mais je vais amener mon Kona Libre LD, je pense. C'est un carbon, charbon avec des attachements sur le forge pour attacher du gear. En général, j'ai juste change des pièces avant de voyager. Le plus long voyage que j'ai fait, c'était 4 mois. J'étais en Europe. Je traînais des pièces qui étaient rares avec moi. Ça dépend du pays. En Argentine, j'ai traîné like, un pneu pliable, par exemple.
Ouais.
Ça, c'était avant Tubeless.
Ouais.
Je pense pour un voyage de like, une semaine ou deux, c'est pas grosse affaire. Je vais changer mon chaîne.
Ouais.
Avant de partir, chose comme ça.
Charlie, je t'ai pas demandé, c'est quoi exactement le trajet que tu t'apprêtes à faire là-bas?
Pour moi, je suis vraiment côté aventure, so je veux pas avoir un trajet like, prévu. Je recherche tous les trajets que je peux trouver.
Okay.
Et même quand je suis là, je vais parler avec des gens, je vais comprendre un peu plus qu'est-ce qui fait du sens. Parce que quand tu parles avec des gens, tu comprends plus. So, je suis le plus éduqué possible, mais il y a des chutes d'eau que je veux voir dans les montagnes, qui sont merveilleux. Il y a une trajet qui s'appelle le Sutu Pass quelque chose. Je pense que c'est like 13 000 mètres de dénivelé sur 500 km.
Ok, ouais. C'est
vraiment up and down.
Ouais. Fait que tu pars pas avec une idée, mettons, en une semaine, je vais faire 600 km par exemple, puis 9000 mètres de dénivelé. Tu pars plus avec. Tu arrives là-bas, tu vas te faire un itinéraire un peu adapté au jour le jour.
Exact. Pour moi, le but, c'est de pas d'aller là puis rouler le plus vite possible. Le vélo est un outil pour découvrir les gens, le paysage et tout ça. So, en voyage comme ça, j'arrête chaque heure. Je prends une pause, je prends la vue, je mange, et je continue. C'est ça que j'apprécie côté touring. You know, je veux pas aller là juste pour aller le plus vite, de manquer tout ce qui est là.
C'est drôle parce que c'est vraiment toi, ça. Je sais pas si tu te rappelles un moment donné, je m'en rappelle plus c'était à quel événement qu'on roulait ensemble, puis il y avait juste comme quelqu'un qui... Comme c'était un feed station, puis là la personne était juste comme, non, on arrête pas au feed station, puis là t'étais juste comme... Free cheese, man! J'étais comme, ah ouais, c'est vrai.
Pickle juice.
Ouais.
I mean, c'est différent en race, like, en gravel ici, il y a du côté race, but quand tu voyages, like, tu voyages, c'est différent.
Ouais, mais en même temps, pour cet événement-là, je pense que c'était, je m'en rappelle plus c'était quoi exactement, là, mais écoute, on devait être centième sur 400, là, fait que tu sais, comme, c'est pas comme si le podium nous attendait puis qu'on avait quelque chose au bout du fil, là, qui... C'est pas, ouais, c'est ça. C'est pas comme si ça allait passer à l'histoire, fait que ça valait la peine d'arrêter de manger ce bout de fromage-là, qui était délicieux, mais...
Des fois, tu sens bon, t'es jacké, et tu veux pas arrêter de ça aussi.
Ouais, j'imagine que c'était ça qui guidait cette personne-là. Qu'on a parlé du bike, dans le fond, ma prochaine question serait vraiment autour du shelter. Je sais que toi, t'es un fan du hamac. Tu m'as déjà convaincu d'acheter un hamac.
Ouais.
Dans le fond, c'est quoi toi? Ça va être quoi comme ton type de...
Yeah, so malheureusement, il n'y a pas de manière de traîner un hammock. I mean, dans le cas d'urgence, tu peux utiliser un hammock comme une tente, mais ça ne marche pas vraiment bon. So, j'ai déjà une tente de 2 personnes, mais je l'ai acheté quand j'étais 13. And c'est pas ultra light. C'est pas bikepacking, côté bikepacking. So, c'était fun de rentrer dans cet univers un petit peu, faire un peu de recherche. J'ai trouvé une tente ultra light. C'est fait par Big Agnes. C'est like 1.1 kilo.
Ouais.
Et mon hammock, c'est like 980. So c'est presque la même. Et je peux mettre. C'est une tente de 2 personnes. So. C'est plus utile. J'avais pas envie d'acheter une solo ultralight tente pour 1 personne.
Ouais, en fait, tout ce que
j'ai utilisé. C'est un hammock.
Non, ça fait beaucoup de sens. Puis c'est pas mal le top, je pense, de ce que j'ai pu voir. En termes de gear de camping, dans ma passion nocturne pour les vidéos de bikepacking.
Yeah, ouais, avec des tentes, il faut traîner aussi une matelas.
Ouais.
So it's just, and the matelas que j'ai, c'était ultra light, but it's quand même 300 grammes. So total, it's like 1.5 kilo au lieu de 1. So 50% plus de.
Ouais.
Ça c'est une gourde d'eau.
En même temps, ça vaut la peine parce que. Mettons qu'il pleut là, puis que t'es en bivouac là. Tu sais, il y en a qui ont ça, là. C'est comme c'est comme un sarcophage de pharaon en tissu. Là. Quand il pleut puis qu'il faut que tu passes ta journée genre dans un bivouac, là, tu sais, comme dans un cercueil, ça doit être là longtemps. Faut soit que tu sois décidé à rouler coûte que coûte ou que tu sois prêt mentalement à peut-être dormir, genre passer une journée couchée à rien faire.
Yeah, ça prend un bon livre.
Ouais,
but, j'ai fait du recherche sur ça. Ça, c'était mon première recherche, mais ça a l'air qu'il n'y a pas beaucoup de ventilation. And dans un environnement chaud, ils ont fait en polyester, il n'y a pas de air qui circule, and je vais devenir trop chaud, c'est sûr. Ça va être pas confort, et si je suis là pour like, une journée, forget about it.
Ouais.
But quand même, si c'est 25 degrés et s'il pleut, je vais rouler.
Ouais, mais tu sais, ouais, c'est ça, puis... Le bivouac aussi, je pense que ça donne 10 degrés de plus.
Yeah.
Fait que, ben, je sais que t'aimes le sauna, mais je sais pas à quel point.
Pour quelques minutes.
C'est ça. Non, mais tu imagine, tu passes une journée au complet, il fait 40 au Lesotho, puis là, toi, t'es là-dedans, il fait 50 dans ton bivouac, ça doit être terrible.
Yeah. Je vais pas amener de sleeping. Je pense juste. Je vais amener des combines, juste en cas que c'est froid dans les montagnes, mais. Je peux dormir. Chez moi, je dors à 16 degrés le soir, anyway, so.
Pour transporter tout ça, est-ce que tu vas avec des paniers ou tu vas, tu sais, des sacoches de touring ou tu vas avec des sacs de bikepacking? Est-ce que tu as fait ton choix déjà?
Yeah, j'ai fait mon choix. Au début, j'étais full panier. Deux paniers en avant. C'était mon style. But j'ai essayé ça avec mon gravel et le forge en carbone, ça twist trop.
Ouais.
Même avec des petits paniers, j'avais des petits paniers de 15 litres chaque, but il y a trop de torsion. Et des fois, quand tu descends, you can get a speed wobble. Un petit peu. So, j'ai rendu des cages sur les forges. Like, un cage tient mon ma tente. Mm-hmm. Et l'autre, c'est normalement mon sleeping ou même mon hammock. And then j'ai un... Et là, celle-là, j'ai acheté 60-50$ Amazon.
Okay. Oh,
juste un dry bag. Et then j'utilise un Ortlieb seat bag. Je pense que c'est genre 20 litres.
Ok.
Something. Je déteste les seat bags, mais c'est juste difficile de les enlever. Et then j'utilise un Ortlieb frame bag de 10 litres qui détache. Et ça, c'est important pour moi quand je voyage parce que je peux garder tout mon stock important et je peux enlever avec juste one press et ça enlève. Mm-hmm. Et je peux rentrer dans un magasin ou whatever avec mon.
Ouais.
Tu mets, mes électroniques, genre. Puis ça tient aussi mon iPad.
Ouais.
Quand je voyage, je peux mettre mon iPad dedans.
C'est drôle parce que tu sais, quand je pense au sac de backpacking ou touring, j'ai comme l'impression que c'est comme un decision matrix, là. Tu sais, que tu te promènes, puis là, t'es comme, OK, est-ce que je veux avoir d'aérodynamisme? Est-ce que ça me dérange si ça va shaker un peu? Est-ce que. Puis là, tu t'en vas dans ton decision matrix, puis je trouve que quand t'arrives au. Justement, comme tu disais, au saddlebag de bikepacking, t'as deux choix. Soit ça s'enlève bien, mais ça va tout le temps bouger dans tous les sens, puis ça va un peu te débalancer, ou il est parfaitement comme attaché. Mais après ça, t'as comme six straps à défaire pour pouvoir.
Je déteste ça. Puis juste enlever quelque chose, c'est ouais. Impossible. But avec mon vélo, j'ai une vélo de touring fait par CNL Cycles à Montréal. Mm-hmm. And quand je mets un panier là-dessus, c'est tight. Je peux faire du gravel facilement et ça tient. Ben c'est juste sur les vélos de carbone, c'est trop flexible. J'ai aussi, un de mes produits, le Go Bag. Ça va sur le top tube
mm-hmm.
qui tient du stock. And then aussi un frame bag de, je pense c'est 3 litres, quelque chose. C'est de côté esthétique, j'essaie de n'être pas trop flashy quand je vais à des pays pauvres.
Mm-hmm.
Parce que d'arriver là, comme je suis un boîte de Crayola crayons,
ouais.
Ça juste attire trop d'attention.
Ouais.
Les flashy bikes or stolen bikes,
mm-hmm.
un petit peu.
Ouais.
So, je dépense beaucoup d'efforts juste pour être neutre.
Ouais.
Visuellement, le plus possible, je vais probablement rouler en jeans.
Ok.
J'ai fait ça pour la plupart de mes voyages. C'est un peu difficile au début, mais.
Ouais, ça va être humide.
Yeah, parce que ça c'est pas la même vitesse que. C'est
ouais.
pas une super haute vitesse quand tu fais les aventures comme ça.
Ouais.
And d'arriver dans un petit village en lycra ou spandex, like.
Yeah.
Tu reçois une différente. Welcome. Ouais. Tout le monde,
je pense que peu importe où tu vas, si t'es en lycra ou en spandex, t'as un accueil différent.
C'est ça. Et pour moi, une partie du voyage, c'est de rencontrer les gens et
ouais.
de rentrer dans la culture le plus possible. So.
Mm-hmm.
Je vais essayer de me déguiser juste comme un gars pauvre, juste comme un étudiant ou quelque chose.
Ouais.
Mais est-ce qu'on devrait faire un petit plan?
Ouais, peut-être.
Je vais faire dire un petit peu.
Ouais. Dans le fond, là, tu fais souvent référence au fait que tu vas pour y aller lentement, que c'est pas une course, que c'est vraiment en mode observation. Puis, dans le fond, j'imagine que le poids a une incidence, mais pas tant que ça. Fait que tu dois amener des items qui sortent un peu de l'ordinaire ou qui sont pas nécessairement comme traditionnels au bikepacking. Peut-être, je dirais, qu'on pourrait s'imaginer un peu plus performance. Là.
Yeah, par exemple, like un livre, pour moi, j'amène. Presque toujours j'amène un frisbee.
Ok.
Et ça, c'est mon plat pour manger.
Ok.
Et tu peux mettre de l'eau dedans pour laver des choses, mais aussi, c'est juste quelque chose. Tu peux jouer avec quelqu'un, même si tu parles pas la même langue.
Ouais.
Tu peux jouer avec des enfants, et ça crée une connexion. J'ai amené des journals, like, plusieurs fois, et je l'ai jamais utilisé.
Est-ce que tu veux dire genre.
Après, crise,
ouais, c'est like, ça. C'est drôle ça parce que c'est drôle que tu dis ça parce que ça fait plusieurs fois que j'en reçois en cadeau de mettons c'est comme il y en a qui sont faites pour le vélo, là, qui se vendent sur Etsy, etc. Puis c'est comme ma ride d'aujourd'hui, tant de kilomètres, tant de dénivelé, le type de vélo que j'utilisais, les pépins rencontrés, comment j'ai surpassé, puis après ça, comme ce que j'ai apprécié, tu sais, pitch and pickle. Puis là, t'es comme, je pense que j'en ai 3-4 qu'on m'a donné en cadeau, puis je les ai jamais remplis parce que je suis comme, on dirait que je préfère vivre le moment plutôt que de m'arrêter puis l'écrire. Puis on dirait que dans ma tête, si je m'en souviens plus de cette anecdote-là, quand je repense au voyage, c'est probablement que j'avais pas besoin de m'en rappeler, tu sais.
Yeah.
Comme les anecdotes de voyage de vélo, quand je m'en rappelle, c'est parce que ça vaut vraiment la peine, puis que ça valait.
Yeah, ça tient plus que, oh, j'ai monté 1000 mètres aujourd'hui.
Exact.
La température était 22 degrés.
J'ai Strava pour ça, anyways.
I guess une autre chose que j'amène qui me donne du confort, c'est mes flip-flops.
Mm-hmm.
Là, j'ai des petits flip-flops en cuir, ils sont super minces, ça prend pas beaucoup d'espace, mais juste. Normalement, quand je fais des voyages comme ça, j'utilise des Giro Rumble VR souliers.
Mm-hmm.
You know, ils sont juste. Ils viennent avec des lacets like, orange, mais je change en noir.
Okay.
Ça devient juste des souliers like, normal, c'est pas trop côté cycliste.
Ouais.
Mais d'enlever tes souliers et mettre des flip-flops, oh, ça fait du bien le soir.
Mais toi, dans le fond, tes souliers de vélo deviennent tes souliers de. Dans le fond, de tous les jours. Ok.
Yeah, mais normalement à Montréal, je porte les mêmes souliers. Like, quand je marche, quand je roule. Yeah. And again, juste pour rentrer dans la culture, like, d'arriver avec like, des souliers en velcro, it's like. Il y a déjà une barrière entre toi et quelqu'un d'autre.
Ouais, exact. Ouais, quand t'es avec les souliers. Spécialement si t'as des souliers en carbone, là, pis tu sais, le gros.
Yeah.
Je peux voir, c'est un peu intimidant ou genre.
C'est like des souliers de like, 300$, pis les gens là, ils gagnent 300$ par année.
Exact.
Like...
Ouais. Mais c'est ça, c'est justement, tu sais, je regarde beaucoup parce que je pars en voyage si peu, puis c'était une des questions que je me posais, tu sais, comme, qu'est-ce que je vais faire sur place? Est-ce que je m'amène des chaussures ou est-ce que j'amène des flip-flops? Puis finalement, je me suis juste acheté, tu sais, les Toms, je sais pas si, en plein de couple d'années, là, c'était comme des souliers en tissu, super mince, super léger.
Ah oui?
Je t'enverrai la photo, c'est comme un. C'est un modèle de souliers argentin qui était fait par les autochtones argentins.
Ouais,
puis
ouais.
C'était en mode genre début 2010. Après ça, la compagnie en donnait une paire des pays pauvres. Finalement, ils ont fait faillite, ils n'ont jamais donné de souliers à personne. Puis là, ils ont été rachetés par une corporation américaine. Puis là, j'en avais une paire à la maison. Puis j'étais comme, c'est parfait, c'est léger, ça se plie tout. Tu sais.
Yeah, c'est parfait. Et puis en Europe, il faut avoir des belles souliers.
Exact, c'est ça.
Pas traîner dans les flip-flops sauvages en Europe. Tu parles d'aller au Suède?
Ouais, en Suède, dans le fond de Gothenburg à Malmö, qui est juste à côté de Copenhague. Dans le fond, comme le bout où la Suède et la Danemark font d'un côté de l'autre.
Nice. En camping ou plus credit card touring?
Credit card touring. Yeah. Ouais, mais j'ai pas beaucoup d'espace pour traîner un paquet d'affaires. Fait que je me suis juste dit, comme je vais faire 100 km, je vais arrêter dans des hôtels. Puis là-bas, à peu près tous les hôtels ont comme un spa attaché.
Mm.
Donc, tu sais, un sauna, un bassin d'eau froide, etc. Fait que mon but, c'est de faire, mettons, 150 km par jour à arriver à l'hôtel, profiter du bon temps, sauna, relaxer, recommencer.
Nice. Ça va être fun.
Ouais, je pense que ça va être le côté plaisant.
Ça me fait penser à like, l'option de like, nettoyer tes affaires quand tu arrives le soir.
Ouais.
Les sécher. Like, tout de suite, tu switch.
Ouais.
Like, tu mets tes bas le lendemain matin ou même si tu as juste un paire de bas, tu les laves tout de suite.
Ouais.
Tu les mets quelque part. Sèche le soir.
Est-ce que tu as la logistique de même comme chaque soir tu laves ton linge que tu as porté le jour même ou
tu le tires un peu? Souvent pour moi, it's like, you know, plusieurs jours de camping et then un jour quelque part. Like dans un.
Mm-hmm.
Whatever, Airbnb ou quelque chose, couch surfing. And like, quand j'arrive à un endroit comme ça, it's like lave toutes les affaires tout de suite.
Mm-hmm.
But j'ai converti en presque tout merino. So tous mes t-shirts, tank tops. sont presque toutes merino, sauf mes bas de cyclo sont like Lululemon, sont synthétiques, mais j'ai roulé millions de kilomètres avec, and ils sont comme neufs.
Ah ouais?
Yeah, puis ils respirent, ils deviennent pas trop stinky.
Mais non, c'est ça, c'est un... Mais le merino, c'est fantastique pour spécialement, ben dans le fond, tout ce qui est plein air, là. Parce que t'as pas tant besoin de te casser la tête pour nettoyer. Puis j'ai tout switché moi aussi mon gear pour quand je pars en voyage pour du merino, parce que je suis comme, tu te casses pas la tête, tu sais, t'arrives le soir, puis si t'es pas capable de le laver pour une ou deux journées, ça sent pas, ça respire, puis quand il pleut ou quand t'as trop chaud, ça sèche super vite, fait que c'est...
Exact, puis c'est une des choses qui réduit ton volume de stock.
C'est tellement léger aussi, là.
Yeah, c'est léger, tu peux mettre plusieurs couches, t'es super warm, mais maintenant, like, même à Montréal, j'ai donné tous mes t-shirts et j'ai seulement merino. Et ça réduit le volume de mes vêtements chez moi. Ce qui est important, j'ai pas trop d'espace chez moi.
C'est minimaliste. C'est drôle parce que quand ma blonde me demandait où est-ce que je venais, puis quand je décris, je suis comme, c'est un peu comme... quand tu vas chez Ikea puis tu visites une maison, là.
Ouais.
Tu sais, c'est les mini-maisons, puis là, c'est comme, vous ne pouvez pas croire que cette famille vit dans 100 pieds carrés.
Yeah, c'est un peu comme ça. Il n'y a pas beaucoup de rangement pour des hoodies,
non.
Des jogging shirts, jogging pants.
En même temps, c'est parfait parce que, tu sais, t'as pas besoin d'accumuler à outrance.
Mais aussi, like, les mêmes vêtements que j'utilise pour vélo, touring, c'est les mêmes vêtements que j'utilise like, dans la ville.
Puis, dans le fond, si on retourne à notre sujet du voyage, ben comment les gens peuvent te supporter d'abord?
Ah oui. L'organisation de ma mère, ça s'appelle helplessutu.org. J'ai fait un lien sur mon site, oopsmark.ca/helplessutu. Et Lesotho, c'est L-E-S-O-T-H-O. Parce que si tu vas sur mon site Oopsmark, tu vas trouver. Et ça coûte like 200$ pour payer les frais pour un enfant de finir secondaire. Et c'est pas nécessaire de donner like 200$, mais comme j'ai dit déjà, on a like 7 ou 8 enfants. Et ça, c'est vraiment cool. Ça va faire une différence. Dans leur monde, dans le pays, c'est pas grand chose pour nous. So, j'apprécie beaucoup le support que j'ai reçu déjà de la communauté cycliste. And y a encore quelques semaines. So, thanks for your support.
Ouais. Puis tu vises avoir combien d'enfants qui vont diplômer grâce à cet effort-là?
Yeah, sur le but, au début, c'était 10 personnes. But je pense que tu vas doubler ça.
Ouais.
Probablement.
Tu étais bien parti, en tout cas.
Yeah. C'était juste... j'étais pas sûr.
Ouais, puis... Mais est-ce que tu vois une progression? Parce que je pense que tu as eu des problèmes avec Facebook aussi.
C'est
ça. Tu documentes, dans le fond, ce que je trouve cool, moi. Puis comme je te disais, tu sais, je geek beaucoup sur le bikepacking ces temps-ci. Fait que j'ai regardé toutes tes vidéos, mais tu documentes, dans le fond, ta préparation.
C'est ça. Yeah, j'essaie de documenter toutes les décisions, les achats, parce que je pense que c'est intéressant pour mon réseau. Et aussi de juste partager ça un peu avec un apprentissage sur l'environnement et sur le projet de ma mère. So, bientôt, je vais lancer des petites portions des entrevues que j'ai fait avec ma mère à propos de comment elle a créé un projet comme ça, comment ça se passait. Un peu plus sur le terrain, un peu plus de si c'est vraiment un bon endroit pour aller faire du vélo, plein de choses, so, yeah.
Et les gens peuvent te suivre sur...
Yeah, sur so, Oopsmark, everywhere, c'est Facebook, Instagram, c'est surtout Instagram. Je partage ce voyage aussi en TikTok et Twitter, tous les réseaux.
Ok, cool. Je sais pas que t'étais sur TikTok.
J'ai relancé TikTok juste pour ce projet. I mean, ça m'a vraiment motivé de faire un meilleur job sur mon contenu, sur mes réseaux, parce que c'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour mon compagnie, c'est pour quelqu'un d'autre, et ça m'a motivé de faire plus. So, j'ai commencé à utiliser TikTok.
Ouais. Mais c'est authentique ton contenu, c'est ça que j'aime. Parce que tu sais, mettons, moi je te connais, puis t'es comme. J'aurais jamais pensé que tu te serais acheté un trainer. Tu t'es acheté un trainer, mais pour ce voyage-là, puis là finalement tu pognes la piqûre. Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui a dit j'achèterai jamais de trainer, puis là finalement il s'en achète un, puis il dit ah, finalement j'ai toujours aimé ça. Tu sais, tu comprends? Il y a comme ça, après ça, toute la préparation, comment tu t'acclimates à la chaleur. Moi, j'ai vraiment trippé sur cette série-là de contenu que t'as fait récemment. Parce que c'est ça, c'était comme tellement engageant, puis ça fit avec la personnalité, ça fit avec Oopsmart, qui est comme ta compagnie, qui est des produits, justement, de la vie, peut-être un peu plus de la vie de tous les jours, puis un peu plus, touring, bikepacking, l'aspect performance, il y a comme quelque chose qui fit avec la personnalité de ta marque.
Yeah, c'est pas mon lifestyle, mm-hmm. You know, j'ai... I lived sur mon vélo pour 4 mois.
Ouais.
So, ça a devenu juste un jour régulier. Je fais mon travail dans les parcs, dans mon hammock. And then, quand j'ai retourné à Montréal après des voyages comme ça, ça a juste. Ça a mélangé les deux.
Ouais. Tu sais, quand tu vivais, justement, si on fait juste une parenthèse, peut-être avant de conclure. Justement, tu sais, ce voyage-là là, de 4 mois, là, ça, c'était en Europe?
Yeah, j'ai fait like, Norvège, Suède, Danemark, Allemagne, France, Espagne, Holland, Belgique, Irlande.
Ah.
J'ai fait un peu de partout.
Tu as vraiment fait un peu partout, en effet.
Yeah, et pour moi, de temps en temps, it's like, oh, je vais aller là. Je saute sur un train, zoop, t'es okay. Dans un autre pays, tu continues.
Un peu la philosophie de tantôt quand tu disais tu prévoyais pas le nombre de kilomètres, tout ça. T'es comme, ah, il y a une opportunité, j'y vais.
Yeah, et c'est parce que c'est une aventure.
Et ouais.
Pour que ça soit une aventure, tu peux pas croire, ça peut pas être tout prévu.
Mm-hmm.
Par exemple, j'ai arrivé en Norvège, une de mes. Follower sur Instagram m'a dit « Oh, j'ai un chalet, tu peux aller vivre là pour tu, si tu veux. » Je suis allé 3 mois, j'ai passé à son chalet tout seul dans le bois. C'est super cool, mais en train d'aller là, de rouler là, les routes étaient super dangereuses.
Ouais.
C'était tout full dangereux, so it's like là, je prends un autobus.
Ouais.
So, c'était pour des voyages comme ça, je pensais un peu dangereux d'être trop... fixe sur ton trajet.
Ouais.
I guess c'est pour ça que les gens prennent des trajets d'autres personnes parce qu'ils savent que c'est déjà.
Ouais.
Secure, but pour moi c'est le côté aventure que j'aime le plus.
Ouais, puis t'as fait ça tout seul, ce voyage de 4 mois là?
Oui. Yeah, j'ai une amie qui m'a passé 3 semaines avec moi, elle a roulé 3 semaines avec moi et j'ai visité des amis pour like, une semaine là ou une semaine là. But, yeah, j'étais toute seule. Je fais une vendange en France pour 3 semaines. Plein de choses.
C'est cool.
Plein de fromage.
Vive le rêve.
C'est ça. Si on ajoute de l'eau.
Sur ouais, ouais, mais je pense que ça peut être ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir reçu dans ton sauna et de t'être ouvert sur... ton passé de touring, ton futur de touring et dans le fond tout ce qui toute ta passion en vélo.
Cool, merci de passer. And, yeah, je vais être... j'ai hâte de voir ton voyage en Suède.
Ouais, je vais documenter le tout puis je vais m'inspirer de toi pour profiter de la vie.
Ouh.
Automatique hein, quand...